Qui est Jésus? Qui est Jésus? C'est cette question que nous nous posons depuis que nous avons commencé notre série de méditations dans l'évangile de Marc. Et depuis qu'on a commencé cette série de méditations, on a déjà collecté un certain nombre de réponses à qui est Jésus. On a vu qu'il est le Messie, le Christ, c'est-à-dire le roi qui a été promis par Dieu pour venir libérer son peuple. On a vu aussi que Jésus est le Fils de Dieu. On a constaté qu'il était plus fort que la nature, plus fort que le mal, plus fort que la maladie, et même plus fort que la mort. Et puis on a constaté aussi à quel point Jésus est le porte-parole, le prophète parfait, le porte-parole de Dieu. Jésus prêche inlassablement. Il annonce le royaume de Dieu sans arrêt. Il annonce comment être réconcilié avec Dieu. Et il nous le dit, par la foi et la repentance. Et Jésus accompagne cette prédication, il l'accompagne d'actes de guérison, et il attire énormément de monde autour de lui. Mais progressivement, il y a aussi les opposants qui arrivent. Des opposants parmi lesquels les religieux de Jérusalem, qui ne le voient pas d'un très bon œil. Ils ne voient pas en lui le roi promis par Dieu. Et ils ont décidé de l'éliminer. Alors Jésus forme ses disciples. Il forme ses disciples pour qu'ils puissent prendre sa relève. Dans l'épisode d'aujourd'hui, qui est un temps de formation des disciples, les disciples de Jésus vont apprendre une leçon essentielle. Ils vont apprendre d'où vient le véritable problème des hommes. D'où vient le véritable problème des hommes. C'est Caroline qui va lire pour nous. Marc 7, les versets 1 à 23.
Des pharisiens et des spécialistes de la loi venus de Jérusalem se rassemblèrent autour de Jésus. Ils remarquèrent que certains de ses disciples prenaient leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas lavé les mains. En effet, les pharisiens et les juifs en général ne se mettent jamais à table sans les avoir soigneusement lavés. Ils observent ainsi la tradition de leurs ancêtres. De même, en revenant du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait leurs ablutions. Ils ont reçu beaucoup d'autres traditions qu'ils observent, comme celle de laver rituellement les coupes, les pots et les vases de bronze. Les pharisiens et les spécialistes de la loi demandèrent donc à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne se conforment-ils pas à la tradition de nos ancêtres ? Pourquoi prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» « Hypocrite, leur répondit-il, Ésaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie où il est écrit « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. » Puis il ajouta « Ah, vous réussissez parfaitement à mettre de côté le commandement de Dieu pour établir votre propre tradition. En effet, Moïse a dit « Honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, que dites-vous ? Si un homme dit à son père ou à sa mère « La part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire offrande de Dieu à Dieu, alors vous ne laissez plus rien faire pour son père et sa mère. Voilà comment vous annulez la parole de Dieu par votre tradition, celle que vous transmettez. Et vous faites bien d'autres choses du même genre. » Puis Jésus appela de nouveau la foule et lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez-moi bien. Rien de ce qui vient du dehors et qui pénètre dans l'homme ne peut le rendre impur. C'est au contraire ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsque Jésus, laissant la foule, fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent de leur expliquer le sens de cette image. Il leur répondit, « Ainsi, vous aussi, vous ne comprenez pas ? Ne saisissez-vous pas ce que je veux dire ? De tout ce qui vient du dehors et pénètre dans l'homme, rien ne peut le rendre impur. Tout cela, en effet, ne va pas dans son cœur, mais dans son ventre, et est évacué par les voies naturelles. Il déclarait par là même que tous les aliments sont purs. Et il ajouta, « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre, à l'adultère, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et à toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. »
Merci Caroline. Je voudrais vous proposer un test, un petit test pour commencer. Première question. Maîtrises-tu ton comportement extérieur ? Je vois des oui, je vois des non. Ok. Peut-être qu'on pourrait dire qu'avec beaucoup d'efforts, on arrive à peu près à maîtriser notre comportement extérieur. Deuxième question. Maîtrises-tu les paroles qui sortent de ta bouche ? Ok, j'entends plus de non que de oui là. Mais... Okay. Et dernière question. Maîtrises-tu tes pensées ? Un peu le sentiment que plus on passe de l'extérieur à l'intérieur, plus ça devient difficile de se maîtriser. Plus ça devient difficile de mener une vie qui plaît à Dieu quand on rentre à l'intérieur. Je ne sais pas si vous aimez les poires. Vous ne voyez peut-être pas le rapport, mais je vais vous l'expliquer. Ça m'a fait penser, ce petit test, ça m'a fait penser à des poires que j'avais achetées il y a de cela quelques temps. Ces poires, elles étaient belles. Elles étaient sacrément belles. C'est pour ça que je les avais achetées même. Elles étaient belles à l'extérieur. Mais quand j'ai voulu les manger et que je les ai coupées, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, elles étaient pourries à l'intérieur. Et il n'y avait rien à faire. Quand on la regardait de l'extérieur, elle était sublime, cette poire. Mais coupée en deux, le cœur était pourri. Je me demande si nous, les êtres humains, on n'est pas un peu comme cela. Bien sous toutes les coutures, finalement, mais pourri à l'intérieur. Vous avez sans doute remarqué que dans cet épisode de la vie de Jésus, il est justement question d'extériorité et d'intériorité. Face à Jésus, vous avez les religieux les plus zélés de l'époque. J'ai nommé les pharisiens. Les pharisiens, c'est là que c'est un peu douloureux pour nous, c'est que c'est sans doute les évangéliques de l'époque, les pharisiens. Ils voulaient mener une vie qui plaît à Dieu, les pharisiens. En tout cas, extérieurement, les pharisiens, ils avaient ce désir de plaire à Dieu. Ils avaient même mis en place des traditions pour plaire à Dieu. Mais je vous relis le diagnostic de Jésus qu'on a entendu au verset 6. Ce peuple m'honore du bout des lèvres. Mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. J'ai un peu flippé quand j'ai lu ça. En tant que croyant personnel, en tant que pasteur, j'ai doublement flippé. Il y a de quoi être interpellé par la question de Jésus. On vient d'honorer Dieu en chantant, en priant, en lisant sa parole. On était sans doute convaincu de lui offrir un culte qui l'honore. Mais était-ce le cas ? Comment était le fond de notre cœur au moment où nous avons chanté, prié, écouté la parole de Dieu ? Quelles étaient les préoccupations réelles de notre cœur ? Et même en ce moment même, est-ce que vous êtes en train de planifier votre semaine future, par exemple ? Dans ce récit, ça fait un peu mal, mais Jésus, il nous remet en cause au plus profond de notre être. Il nous questionne sur les deux points suivants, et c'est ça qu'on va voir l'un à la suite de l'autre. D'abord notre extériorité, et ensuite notre intériorité. Alors notre extériorité, on va commencer par ce point-là. Ça commence par deux exemples d'extériorité, de tradition extérieure, qui nous viennent des pharisiens. Donc on va commencer par étudier deux exemples pharisiens. Se laver les mains et le corban. On va expliquer ça. Question de pureté rituelle. Les pharisiens qui sont là autour de Jésus, ils se rendent compte que certains de ses disciples ne se sont pas lavés les mains avant de manger. Ils n'ont pas respecté ce rite de purification traditionnel des Juifs. Et les pharisiens ne se privent pas de faire la remarque à Jésus. Alors ça vient d'où cette histoire de se laver les mains? Ça vient du fait que dans le judaïsme, il fallait être pur pour s'approcher de Dieu. Par exemple, il y avait plusieurs choses qui rendaient impurs, comme le fait de toucher un malade ou un cadavre. Le fait de manger du porc, ça rendait impur aussi, pour les Juifs. Et dans ce cas-là, quand on était en état d'impureté comme ça extérieure, il était interdit d'entrer dans le temple pour rendre un culte à Dieu. Il fallait d'abord se purifier, se laver et respecter un délai avant de pouvoir à nouveau s'approcher de Dieu au temple. De leur côté, il y avait des prêtres. Les prêtres qui, eux, devaient offrir un culte à Dieu dans le temple. Et Dieu leur avait demandé, oui, eux, les prêtres devaient se laver les mains, entre autres, ils devaient se purifier extérieurement pour pouvoir rendre ce culte à Dieu. Les prêtres étaient concernés uniquement par cet aspect-là. Mais ce groupe religieux des pharisiens, qui voulait vraiment plaire à Dieu, mener une vie qui honore Dieu, en fait, ils désiraient tellement être dans un état de pureté totale devant Dieu, qu'ils avaient généralisé ce commandement qui n'était que pour les prêtres, ils l'avaient pris pour eux-mêmes. Et ils se lavaient les mains sans arrêt. C'était devenu une tradition pour eux. Alors une tradition en soi, ça n'a rien de bon ou de mauvais. Mais le problème des traditions, c'est qu'avec le temps, on risque d'oublier la signification de pourquoi on a monté la tradition. On ne sait plus exactement ce que Dieu exige et ce qu'il n'exige pas. Et c'est ce qui s'était passé. Avec le temps, les pharisiens étaient devenus obnubilés par la pureté. Ils étaient persuadés qu'il fallait se laver les mains pour être acceptés par Dieu. Mais Dieu n'a jamais rien dit de tel. C'est, d'après ce que dit Jésus, c'est une règle inventée par les hommes, verset 7. Une tradition humaine, verset 5. Ça ne rapproche pas de Dieu de se laver les mains. Ça concernait uniquement les prêtres dans leur service du temple. Et c'était pédagogique, c'était juste pédagogique pour leur apprendre que Dieu est pur et que nous, les hommes, ne le sommes pas. Mais les pharisiens en avaient fait une règle pour tous. Ça, c'est pour se laver les mains. Alors, l'histoire du corban, maintenant, ce deuxième exemple pharisien. Corban, ça veut dire offrande, offrande pour Dieu. En gros, une somme d'argent que l'on met de côté et auquel on ne touche pas, parce qu'on la destine pour Dieu, pour son temple. Et là, pareil, l'intention initiale, elle est bonne derrière. C'est réserver une part de nos biens pour Dieu et pour son service. C'est très bon, rien à redire. Mais le problème survient quand une personne refuse d'aider ses parents parce qu'il déclare corban la somme qu'il a à disposition. Ses parents sont dans le besoin et lui disent « Non, mais je ne vais pas vous aider parce que toute la thune que j'ai, en fait, je la réserve pour Dieu. » Pour son temple, pour son service. C'est ça le corban. Et là aussi, vous avez vu à quel point Jésus, il est dur contre eux. Votre tradition annule la parole de Dieu. Pourquoi ? Ben, commandement numéro 5, tu honoreras ton père et ta mère. La personne en question aurait dû plutôt répartir ses finances différemment pour continuer à aider ses parents et en même temps, honorer Dieu, d'une façon ou d'une autre. Vous annulez la parole de Dieu par votre tradition, dit Jésus. Il y a un troisième exemple d'extériorité, de tradition. Il y a un troisième exemple de tradition dans notre passage, mais il vient pas des pharisiens, il vient de cette fois-ci de la parole de Dieu elle-même. Il va falloir qu'on se penche dessus. Un exemple qui vient de la loi de Dieu. Donc ce n'est pas une tradition humaine inventée par les religieux, contrairement aux deux précédentes. Cette règle est la suivante, c'est celle des aliments impurs. Dieu, il avait mis à part le peuple juif pour montrer aux autres nations le statut particulier du peuple juif dans son plan. Et les juifs ne devaient pas manger de certains aliments, comme par exemple le porc qui est le plus connu. Mais Jésus, dans notre passage, il annonce une ère nouvelle. Écoutez, versets 18 et 19. De tout ce qui vient du dehors et pénètre dans l'homme, rien ne peut le rendre impur. Tout cela, en effet, ne va pas dans son cœur, mais dans son ventre, et est évacué par les voies naturelles. Il déclarait par là même que tous les aliments sont purs. Jésus n'est pas ici en train d'annuler le commandement de Dieu. Il annonce plutôt que ce commandement avait une valeur pédagogique et temporaire pour séparer les Juifs des autres peuples. Mais avec la venue de Jésus, tout est différent. Il ne doit plus y avoir de séparation entre les différents groupes ethniques. La bénédiction s'étend à tous les peuples. Plus de raison alimentaire de séparer les peuples. Ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Ce n'est pas une règle extérieure qui nous rapprochera de Dieu. C'est Jésus qui nous rapprochera de Dieu. Je voudrais vous donner un exemple contemporain. Je me suis posé la question, est-ce que nous, on a des traditions de ce type-là, nous, les évangéliques? Est-ce qu'on prend le risque, de temps en temps, d'avoir des traditions qui peuvent faire obstacle à la parole de Dieu? On n'est pas très traditionnels, nous, en général, les évangéliques. C'est toujours un peu folklorique dans nos cultes, et dans notre façon de vivre aussi, peut-être, mais parmi les traditions évangéliques, on pourrait dire que peut-être que le culte pourrait en devenir une. Le culte personnel ou le culte familial également. Prier ou chanter avant de se mettre à table, ça pourrait être une tradition évangélique. Et prier, lire la Bible avant de se coucher aussi avec les enfants, ça pourrait être une tradition évangélique. Alors, ne m'entendez pas mal, toutes ces traditions-là sont excellentes. Excellentes. C'est une très bonne chose que d'ouvrir la Bible régulièrement, chaque jour même. C'est une très bonne chose pour apprendre à mieux connaître Dieu, pour mieux l'aimer, pour mieux le servir. Et je ne peux que vous encourager à prendre du temps à part pour Dieu. Mais il y a peut-être une ligne rouge à ne pas franchir avec toutes ces traditions. Cette ligne rouge, ça serait de croire que ce sont ces traditions-là qui nous rendent acceptables aux yeux de Dieu. Cette ligne rouge, ça serait de croire qu'on est meilleur que le reste de l'humanité parce qu'on lit notre Bible et qu'on prie. Merci Seigneur, parce que je ne suis pas comme le reste de l'humanité. Je lis ma Bible tous les jours et je prie tous les jours. Pourtant, c'est pas ce culte que nous sommes en train de rendre qui va nous sauver. Ce n'est pas notre culte personnel qui va nous sauver non plus. Même si toutes ces choses-là restent sans doute les meilleures activités que l'on peut avoir pour entretenir notre relation avec Dieu. Mais le risque est le même que pour les pharisiens, c'est vraiment que nous nous croyons purs aux yeux de Dieu à cause de ces traditions que nous avons développées. Le vrai culte qui honore Dieu, c'est quoi? C'est une vie d'obéissance permanente. Pas juste du saupoudrage comme ça dans notre vie, 10 minutes chaque jour et puis 1h30 le dimanche matin. Le vrai culte qui honore Dieu, c'est pas du saupoudrage. C'est une vie d'obéissance permanente. C'est notre cœur qui intéresse Dieu. Dans ce récit, Jésus nous rappelle que la pureté, ce n'est pas une affaire de tradition ou de rite extérieur. Les pharisiens, on l'a bien compris, ils recherchent une pureté extérieure. Ils pensent que ça suffit pour être accepté par Dieu, par exemple de bien se laver les mains avant de manger. Mais les exigences de Dieu sont bien supérieures. Les exigences de Dieu, c'est une pureté intérieure, une pureté qui vient du cœur. Jésus, finalement, il nous met en garde contre notre propre hypocrisie. Il nous met en garde contre l'hypocrisie d'un vernis religieux apparent, mais dont le cœur, en dessous, serait bien vide, en fait, bien loin de Dieu. On va se pencher donc sur la question de notre intériorité, qui est donc bien la clé de toute notre relation avec Dieu, notre intériorité. La pureté que recherche Dieu, c'est celle du cœur. Corinna en a parlé tout à fait justement tout à l'heure. Le cœur, ce n'est pas juste l'organe qui fait battre notre... Voilà, vous m'avez compris. Notre cœur, dans la Bible, c'est le siège de nos émotions, c'est le siège de notre volonté, c'est le siège de notre raisonnement. On pourrait dire en partie le cerveau, en France. Nos actes, nos pensées, nos émotions, tout cela vient de notre cœur dans la Bible. C'est une métaphore pour parler de tout ça. Et quel est le verdict de Jésus sur notre cœur ? Verset 21. C'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les mauvaises pensées qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre, à l'adultère, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. Donc là, le verdict de Jésus, il est limpide. Ce qui nous sépare de Dieu, ce n'est pas notre extériorité, c'est notre intériorité, c'est notre cœur. Ce qui nous salit par rapport à Dieu, ce n'est pas de manger tel ou tel aliment, ce n'est pas de se laver ou pas les mains avant de manger. C'est l'intérieur de l'homme. Et je voudrais vous poser cette question-là. Est-ce que vous êtes convaincu que votre cœur est sale et mauvais ce matin? Est-ce que vous êtes convaincu de ça? Au cas où vous ne soyez pas convaincu, je voudrais vous présenter une expérience. Une expérience qui a eu lieu en 1971. Aux États-Unis, dans la prestigieuse université de Stanford. C'est un docteur qui travaillait dans cette université qui a réalisé cette expérience. Il s'appelle docteur Zimbardo, pour ceux qui en ont entendu parler. C'est une expérience assez célèbre. Il a choisi 18 étudiants à l'université de Stanford. Donc vous imaginez le niveau des étudiants. Ces étudiants, bien sous toutes les coutures, intelligents, avec une moralité. Il n'a pas pris n'importe qui. Il a partagé les étudiants en deux. D'un côté des gardiens, de l'autre côté des prisonniers qu'ils ont enfermés. L'expérience devait durer 15 jours. Les étudiants qui étaient les gardiens avaient le droit de tout, sauf d'attenter à l'intégrité physique des étudiants prisonniers. L'expérience devait durer 15 jours. Le docteur Zimbardo l'a interrompu au bout du 6e jour. Parce que les étudiants qui étaient les gardiens étaient devenus des véritables tortionnaires. En 6 jours, ce qu'ils ont pu observer dans cette expérience était l'horreur du cœur humain. Cette expérience avait véritablement révélé ce que ces étudiants-là avaient au fond d'eux-mêmes. Et je ne sais pas si on a l'humilité de reconnaître qu'à leur place, on aurait fait pareil, sans aucun doute. Il y a certaines conditions de vie qui révèlent le pire qu'il y a au fond de notre cœur. Je sais personnellement que, moi, dans certaines conditions de fatigue et de stress, je deviens impatient et je deviens même parfois dur avec mes enfants. J'ai pu l'observer à plusieurs reprises. Et je ne sais pas vous, mais vous connaissez sans doute ces situations qui vous font sortir de vos gonds et qui font sortir ce qu'il n'y a pas de beau en vous. Peut-être que c'est quand vous vous énervez au volant, quand un chauffard vous fait une queue de poisson, et là, votre cerveau disjoncte. Quand mon grand-père est revenu de la Seconde Guerre mondiale, il ne supportait pas les Allemands. Il les appelait les Boches. Et il est mort, mon grand-père est mort, avec cette haine au fond de lui. Ce qu'il était incapable de voir, mon grand-père, c'est que tous les Allemands n'étaient pas des nazis. Et ce qu'il était incapable de voir non plus, c'est que nous, Français, nous n'étions pas meilleurs que les Allemands. Vous connaissez la chanson de Jean-Jacques Goldman qui le dit si bien ? Si j'étais né en 17, à Leidenstadt, bercé d'humiliation, de haine et d'ignorance, nourri de rêves de revanche, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand ? Alors on a un choix, on est face à un choix aujourd'hui, c'est le choix de l'hypocrisie ou pas. Est-ce que on veut être comme les pharisiens. Pour ne pas être des hypocrites, eh bien, il nous faut nous regarder avec lucidité et accepter la vérité qui est dure. Cette vérité, c'est que on est tous mauvais. C'est que notre cœur pourrit tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, tout ce que nous ressentons. Je voudrais citer Luther. Voici ce qu'il a écrit, Luther. « J'ai plus peur de mon propre cœur que du pape et de tous ses cardinaux. Mon cœur dissimule un autre grand pape qui s'appelle moi. » On ne peut pas suspecter Luther de porter le pape et les cardinaux dans son cœur, mais ce qu'il écrit là donne matière à réflexion. J'ai plus peur de mon propre cœur que du pape et de tous ses cardinaux. Quelques mots de conclusion. Ce n'est pas un rite de pureté extérieure qui va nous rapprocher de Dieu. Ce ne sont pas nos traditions, aussi belles soient-elles, qui peuvent nous rapprocher de Dieu. Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est notre cœur. Jésus a dit à ce propos-là, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Le problème, c'est qu'on vient de le constater, eh bien, aucun d'entre nous n'a un cœur pur. Aucun d'entre nous n'a un cœur pur. Alors, ce qui intéresse Dieu, c'est notre pureté intérieure, mais on n'est pas pur. Alors, comment faire ? Comment faire ? Est-ce que ça veut dire qu'on ne verra pas Dieu ? Et je dirais que c'est vrai. C'est vrai. Quelles sont nos chances de voir Dieu ? Ben, comme ça, elles sont nulles. Elles sont nulles. Aucun être humain ne mérite de voir Dieu face à face. Aucun. On mérite tous la colère de Dieu, parce que notre cœur est mauvais, parce que nous ne voulons pas de Dieu dans notre vie. On rejette notre Créateur. Et on devrait tous être punis pour ça. On devrait tous mourir. Mais vous connaissez la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est ce petit « mais » en bas de la page. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a pourvu une solution à la méchanceté de notre cœur. Et cette solution, c'est qu'il est devenu cet homme dont nous avons parlé tout le long. Il est devenu Jésus-Christ. Il est devenu homme. Et Jésus a mené une vie, une existence juste. Lui, Jésus avait le cœur pur. Il a toujours eu le cœur pur. Il ne méritait pas de mourir. Il était le seul être humain qui a jamais mérité de mourir. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. Il a accepté de mourir à notre place sur la croix. Il a subi à notre place la punition que méritaient nos fautes. Si bien que maintenant, on peut être réconcilié avec Dieu. Mais c'est pas tout, parce que est-ce que ça résout fondamentalement le problème de notre cœur, celui dont on a parlé, ce problème du cœur humain ? Eh bien, la bonne nouvelle ne s'arrête pas là, c'est que Dieu a décidé de nous transformer de l'intérieur. Il a décidé de changer notre cœur. Il y a ce passage qui en parle très très bien dans la bouche du prophète Ézéchiel. « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. » J'enlèverai de votre être, votre cœur dur comme la pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Et c'est ça l'œuvre que Dieu fait en nous. Dieu, il fait comme une opération à cœur ouvert. Il nous transplante un nouveau cœur. Alors, tout n'est pas révolutionné d'un coup. Ce changement de cœur, c'est un processus qui dure toute la vie. Et les caractéristiques de ce nouveau cœur, eh ben, il n'est pas dur. C'est un cœur qui est humble. Un cœur qui revient à Dieu quand il s'égare. Un cœur qui lutte contre ses mauvais penchants. Un cœur qui se plaît à vivre les commandements de Dieu. Et ce changement de cœur, on en voit les fruits progressivement dans la vie, à long terme. les fruits de cette transplantation cardiaque, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la maîtrise de soi, et encore plein de choses d'autres, c'est pas exhaustif. Peut-être que tout cela, c'est nouveau pour toi, mais peut-être que en y réfléchissant, tu as conscience que le diagnostic de Jésus sur ta vie est bon. Tu as conscience que le diagnostic est juste, que Jésus a vu juste sur ton cœur. C'est bien de ton cœur que proviennent toutes ces mauvaises choses. Ben, je t'invite aujourd'hui à laisser entrer Jésus dans ta vie. Je t'invite à placer ta confiance en lui. Je t'invite à te détourner de tes fautes et à te laisser transformer par son esprit, à te laisser transformer par sa parole. Mais peut-être que tu as déjà placé ta confiance en Jésus, mais peut-être aussi que tu fais le constat que tu continues d'avoir des mauvaises pensées, que tu continues d'avoir de mauvaises paroles et de mauvaises actions. Eh bien, je voudrais te dire, ne lâche rien. Ne lâche rien. Le changement de ton cœur, c'est un processus qui dure toute la vie. Dieu a commencé à le faire et il a promis qu'il continuerait à le faire et qu'il le ferait jusqu'au bout. Et puis, il s'attend aussi à ce que tu fasses des efforts conscients pour t'améliorer et suivre ses commandements. Et nous en sommes tous là. J'en suis là moi aussi. Je vous rappelle ce slogan dont je vous avais parlé pour l'année 2019. 100% cohérent, deux points, chargement en cours. Accrochons-nous à Dieu. Accrochons-nous à sa parole. Amen.